Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delisgeorges.
Et oui, comme tous les lundis, en direct du studio 167 de la Maison Ronde, de la Maison de la Radio Continent Science. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, le grand entretien avec Sébastien Balibar, qui est physicien. Et puis, comme à l'ordinaire, nous ouvrirons ensuite l'espace critique. Mais tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, je retiens encore et encore une lilliputienne. Elle est originaire, elle aussi, de Cuba. Il s'agit de Eleutherodactylus iberia. Ouf, je l'ai à peu près prononcé. Elle a été découverte en 1996 dans la forêt tropicale du Monte Iberia. Elle n'excède pas 10 mm de long. Cette taille minuscule en fait non seulement la plus petite grenouille, mais également le plus petit tétrapode de l'hémisphère nord. Description: son museau est pointu et son corps est élancé. On peut la reconnaître des autres grenouilles vertes par son corps plus gracile et plus clair et avec ses pattes postérieures nettement plus courtes. Sa couleur dorsale varie entre les tons de vert clair ou vif, mais elle peut aussi paraître brunâtre. Habitat: la petite grenouille verte a beaucoup plus tendance à peupler les petits plans d'eau. Alimentation: elle est très variée comme pour les autres grenouilles, mais avec une moindre proportion de petits vertébrés, compte tenu bien sûr toujours de sa petite taille. Elle se nourrit principalement de mouches et d'autres insectes volants. Comportement et reproduction: elle hiverne plus souvent à terre, dans des endroits humides. Active le jour, cette petite grenouille se voit souvent sur des rives ensoleillées. J'arrête là le portrait, car ma voix va y rester. Bonjour Sébastien Balibar.
Bonjour Stéphane Delisgeorges.
Vous n'êtes pas tombé parce que vous êtes un cycliste émérite.
Et je suis un type impatient et le vélo, surtout à Paris, ça va beaucoup plus vite que tous les autres moyens de transport. Donc je suis venu à toute allure, j'étais en retard sur mon vélo et je ne suis pas tombé, non.
Mais pas en retard, en tout cas pas en retard pour nous, non. Vous étiez bien à l'heure. Alors cycliste, vous en parlez aussi, enfin du vélo plus exactement, à plusieurs reprises dans ce dernier livre, intitulé tout simplement « Je casse de l'eau », donc on va apprendre pourquoi vous cassez de l'eau, et qui donc porte comme sous-titre « Et autres rêveries scientifiques ». Alors il y en a une que je voudrais prendre tout de suite, d'abord parce que vous m'avez fait connaître la chose, ça a été découvert par un physicien allemand, et je trouve que c'est un petit monument et de physique et d'histoire naturelle.
Ah oui, je vous vois venir.
Ah
oui.
Ben voilà.
Oui.
Allez-y, il s'agit des crevettes.
Elles sont formidables, ces crevettes.
Ah oui, vraiment. Oui. Ah, évidemment, on ne les aime pas trop quand on plonge dans les sous-marins, comme j'ai pu le faire en reportage, parce qu'elles font un bruit d'enfer, elles forment même le fond sonore, le bruit de fond, on peut dire. Mais on a découvert une chose extraordinaire. Et alors là, on n'aime pas la cavitation. Et là, c'est de la bonne physique. Dans les sous-marins, on n'aime pas la cavitation qui peut venir des hélices, bien sûr.
Ah oui, bien sûr.
Des pompes hélices. Parce que ça forme la signature pour les ennemis.
Et oui, ça fait du bruit, oui. Effectivement, voilà. Il y a un rapport entre la cavitation derrière les hélices des bateaux, en particulier des sous-marins, et la cavitation que produit ces petites crevettes qui ressemblent plutôt à des petites langoustines d'ailleurs, oui. Qui, quand elles ferment leurs pinces, font un petit jet d'eau de mer, hein, bien sûr, tellement rapide que ça attire sur l'eau et effectivement, ça fait aussi une bulle. Et le bruit vient du fait que la bulle, elle croît pendant qu'il y a une dépression, par exemple associée à ce courant d'eau violent, mais ensuite, ça se calme et donc la bulle se referme. En se refermant, elle implose, comme on dit. Et là, ça fait un petit bruit sec. Et donc, dans mon laboratoire, on fait exactement ça avec des ultrasons. Mais les crevettes, ça fait beaucoup de bruit. Et comme elles sont des millions, ça fait beaucoup de bruit dans le golfe du Mexique. Et donc, à part que c'est une anecdote qui vaut largement une chronique animalière, et je me souviens que vous l'aviez faite il y a quelques temps... C'est un problème de physique intéressant qui concerne la vie animale. Bon. Et c'est un peu effectivement le même phénomène que derrière les hélices de bateau. Et tout ça est lié à, bon, à la structure de l'eau, mais on va peut-être en parler un peu davantage.
Oui. On peut peut-être donner encore plus de détails, tellement la chose, oui. Moi, je la trouve fascinante en tout cas.
Oui.
Donc, il y a une très grande asymétrie chez ces petites crevettes et qui fait que l'une des deux pinces est extrêmement puissante, extrêmement musclée. Il faut en plus un muscle très puissant aussi pour la rouvrir.
Absolument.
Comme pour la fermer.
Oui.
Et la température qui se crée au sein de cette bulle de gravitation est parmi l'une des plus élevées. Alors c'est moi qui fais le savant
à mon
tour. Hein.
Mais je constate que vous savez tout, c'est bien.
Mais c'est grâce à vous, hein, parce que j'ai regardé ça
de près. Mais oui, mais c'est tellement bien la physique simple comme ça, dans la vie courante. Quoi. C'est...
Et en plus, elles font de la thermoluminescence.
Oui, oui.
C'est la totale.
Sonoluminescence,
hein.
on dit.
Aussi,
oui,
de la sono.
Oui. Oui, effectivement, quand la bulle se referme, parce que la dépression est passée, le gaz qui est à l'intérieur, qui est un mélange d'air et de vapeur d'eau, se comprime violemment. Et vous savez bien, quand on comprime un gaz, il chauffe. Il n'y a qu'à prendre une pompe à vélo. Mm-hmm. On sait bien que quand on pompe, on se brûle les mains sur la pompe. Et donc, la température de la vapeur à l'intérieur de la bulle pendant l'implosion augmente énormément parce que l'implosion est extrêmement rapide. Et donc, on atteint effectivement des dizaines de milliers de degrés. À des dizaines de milliers de degrés, la vapeur s'ionise. C'est comme dans une flamme. Et donc, ça éclaire. Sauf que la flamme du feu de bois, dont j'aurais bien besoin aujourd'hui, vu le temps qu'il fait, est rouge parce que c'est de l'ordre de 1000 degrés. Bon. Et à 10 000 degrés, c'est bleu. Et donc, ces petites crevettes, non seulement font un bruit d'enfer dans le golfe du Mexique, mais en plus, elles font des tout petits éclairs de lumière bleue qu'effectivement, Detlef Lohse est un Allemand, c'est vrai, mais travaille en Hollande à Twente, a non seulement observé, mais analysé, il a compris toute la physique sous-jacente à cette histoire merveilleuse que je raconte, mais qui n'est pas encore scientifique dans cet état-là, en tout cas.
Alors, pour finir aussi, on s'est rendu compte, mais ça c'est tout à fait autre chose, d'abord que ça pouvait servir d'arme, ces bulles.
Pour les crevettes, vous voulez dire ?
Oui, chasser.
Effectivement, elles chassent en faisant des petites ondes de choc acoustiques produites par l'implosion des bulles. Ouais.
Et elles sont territoriales.
Elles sont territoriales. Ah,
oui.
Ça, je ne sais pas.
Et elles sont même eusociales.
C'est vrai ?
Oui.
C'est-à-dire qu'elles se chassent les unes des autres pour garder leur terrain ?
Non,
et...
ça veut dire qu'elles sont organisées en société vraie. C'est-à-dire, avec des hiérarchies, des tailles, ainsi de suite. Elles sont incroyables.
Oui. Ah, mais là, vous dépassez le niveau de connaissance. Je ne connais rien sur la sociologie des crevettes.
C'est à cause de vous, je le redis encore, j'ai tout été voir. Alors, vous cassez de l'eau, mais aussi parfois vous faites tomber des bonbonnes d'hélium.
Ah oui. Oui, j'ai dit ça aussi, oui. Parce que dans ce petit livre, donc, où il y a de la physique qui m'amuse, qui c'est mieux qu'amuser, c'est sérieux, en fait. Ça me plaît vraiment. Bon. Et c'est souvent de la physique de la vie quotidienne. Et donc, il y a effectivement des histoires d'eau, sans aucun jeu de mots. Mais par ailleurs, il y a des histoires de chaud et de froid, effectivement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parlait de ça, déjà ?
Eh bien, vous alliez...
Ah oui, le bidon d'azote.
Le bidon d'azote. Qui s'est pris les pieds dans le tapis, quoi. Et donc,
c'est à la fois des anecdotes de la vie d'un scientifique, et après tout, à force de parler de mes passions, je finis par faire mon autoportrait. Donc, ce livre est aussi un peu l'autoportrait d'un scientifique. Je parle aussi de ma vie quotidienne de chercheur. Et comme effectivement, je travaille beaucoup sur la physique du froid, pas seulement, puisque l'eau, c'est pas spécialement froid. Effectivement, je voulais expliquer qu'on peut se brûler aussi avec du froid. Tout le monde le sait. Hein. Tout le monde a, enfant, une petite verrue, est allé voir un dermato et s'est fait brûler une verrue avec de l'azote liquide. Simplement, moi, je manipule l'azote liquide par centaines de litres. C'est un peu dangereux. Et surtout, quand on tombe, tout ça se renverse par terre.
Et à quelle température, Sébastien Balibar ?
Alors, l'azote liquide... On avait une petite stagiaire de 3e ce matin. Je lui ai dit, vous savez... petite gamine, elle a, je sais pas, 14 ans. Je lui dis, vous savez, l'azote liquide, c'est moins de 100 degrés. Elle dit, non, moins 196. Alors, j'étais très fier de voir qu'en troisième, il y avait des élèves qui savent que l'azote liquide, c'est moins 196 degrés Celsius, ce qui fait 77 Kelvin. Et effectivement, si on met la main sur une pièce métallique à cette température-là, on y laisse la peau. Et c'est effectivement ce que j'ai fait un jour. Je me suis sérieusement brûlé avec du froid.
50 centimètres carrés, vous dites.
Toute la surface de la main, je suppose, c'est de l'ordre de 30 centimètres carrés, oui.
Alors... Il y a une jolie page, je vous ai vu tout à l'heure, dans l'intervalle entre les annonces de programme et le début de ce rendez-vous de Continent Science, quelqu'un dire il faut séparer l'amour et la sexualité. Et je vous ai vu hocher la tête. Ah, oui. Alors, il y a quelque chose d'étonnant dans votre livre, c'est que il y a deux pages d'amour.
Eh oui.
Très joliment écrites.
Vous croyez ?
Ben oui.
Vous êtes gentil.
On ne va pas les lire.
Non, il faut laisser la surprise, elles sont bien cachées.
Oui.
Parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle Q, en fait, mais c'est pas celui-là qui est chaud, si je peux me permettre. C'est un autre. Hein.
Non, mais il est chaud en même temps, il est romantique.
Comment dire le chaud et le froid, c'est de la physique. Hein. Bon, alors, bien sûr, l'amour et la sexualité, c'est autre chose que de la physique. Mais il s'est trouvé qu'en écrivant le livre, ça m'est venu à l'idée de faire une espèce de transition vers le problème du chaud et du froid, effectivement, et de parler du chaud qui, effectivement, dans l'amour, à mon avis, est essentiel. Mais je ne veux pas en dire plus parce que j'ai beaucoup hésité à le mettre. Et puis finalement, je crois que les gens trouvent que ce n'est pas si malvenu.
C'est très joli, c'est très joli. Mais là, vous en avez trop dit en cette fois concernant le cul ou les culs.
Oui.
Parce qu'on va parler, là encore, votre amour du vélo.
Oui.
Et pour quelque chose, hein, on va parler de ce pantalon spécial qu'ont les cyclistes.
Le cuissard, oui.
Alors
oui, il faut dire que, donc, si vous me permettez, je reprends un peu le fil de ce que je disais tout à l'heure. J'ai eu envie d'écrire un livre pour s'amuser, un peu pour dire aussi aux gens que la science, c'est sérieux, mais ce n'est pas forcément ennuyeux. C'est parfois souriant. Et puis, j'ai horreur des scientifiques qui se prennent au sérieux, vous savez. Bon. Et donc, j'ai eu envie de sourire en racontant des choses qui sont importantes, pas forcément fondamentales, mais importantes. Et donc, à force de parler de ce qui me plaît, j'ai fini par déborder. Et donc, effectivement, il y a aussi la musique et le vélo, et qui sont les deux autres pointes du triangle de mes passions dans la vie. Le reste, je le garde pour moi, si vous voulez bien. Bon. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'histoires de vélo. C'est parfois prétexte à de la science, parce que ne serait-ce que le petit calcul très simple, quelle est la puissance développée par les cuisses d'un cycliste quand il monte une côte, on s'aperçoit que c'est ridicule, c'est 300 watts s'il est extrêmement fort et très bien entraîné. Mais moi, c'est seulement 200 et c'est quoi 200 watts? C'est 3 lampes électriques. Donc on s'aperçoit d'un seul coup que la physique remet en place des choses de la vie courante auxquelles on n'a pas réfléchi. Et j'ai très envie exactement de ça. Ouvrez les yeux. J'adore la curiosité. C'est pour ça que mon livre précédent s'appelait « La pomme et l'atome ». La pomme, c'est parce que c'est le fruit défendu de la curiosité. Bon. Et j'aime. Et donc ce livre est aussi c'est un peu tout à la fois, je suis désolé, mais c'est aussi un peu pour éveiller la curiosité des gens. Donc leur expliquer que la puissance humaine de nos muscles est finalement très très faible par rapport à ce qu'on a l'habitude de prendre à la prise de courant. Je crois que ça mérite d'être dit à des tas de gens qui peuvent se dire « Tiens, je n'avais pas pensé à ça. » Et donc, il y a aussi des choses sur pourquoi un vélo tient debout, parce que c'est des choses qui sont, alors là, très délicates à expliquer, très compliquées. Mais
c'est un des chapitres les plus longs, d'ailleurs.
Oui, et pourtant, mon éditrice me l'a fait couper en deux, parce que... Bon. Mais c'est difficile d'expliquer pourquoi un vélo tient debout, effectivement. Ça m'a demandé beaucoup de travail, ça. Pas autant que d'écrire un chapitre érotique, mais pour d'autres raisons.
Ah, il est érotique et amoureux en même temps. Allez, on ferme la parenthèse, mais
oui.
Il était héroïque et érotique.
Je vous laisse juger.
Et amoureux. Oui, non, il est amoureux. Alors, il y a la forme de la fourche, déjà, c'est très important. Et puis, la question du frottement pour le vélo.
Et oui. Hein? Et tout ça, c'est de la physique, hein, bien sûr. Et des histoires de comment est appliquée la force, c'est-à-dire le poids, principalement, à quel endroit et comment ça se situe, de telle sorte qu'il y a un couple qui est dans un sens ou dans l'autre qui fait tourner le guidon à droite ou à gauche. Donc, effectivement, selon la forme de la fourche, vous pouvez ou vous ne pouvez pas lâcher votre guidon quand vous pédalez, typiquement. Bon. C'est-à-dire que dans un cas, le système est stable, parce que si vous écartez, vous penchez un peu à gauche, il y a une petite force que j'explique, tant bien que mal, qui fait que ça redresse à la fois votre trajectoire, votre position et votre guidon. Donc c'est stable. Et si la fourche était, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est beaucoup plus longue, ce serait l'inverse et on ne pourrait absolument pas lâcher le guidon sans se casser la gueule.
Il y a une photo très célèbre d'Einstein faisant du vélo.
Ah oui, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas osé la mettre en couverture, je n'ai pas le copyright.
Elle est très jolie. Mais avec vos 200 watts d'énergie venue de vos muscles, vous avez vraiment grimpé le galibier, Étienne Balibar?
Sébastien Balibar, Sébastien, c'est pas grave.
Voilà. Oui.
J'aime mon frère aussi, oui. j'ai monté le galibier de nombreuses fois, oui. Oui. Très souvent. Oui.
Wow.
Oui, oui, beaucoup de choses. J'adore ça, oui.
Mais vous êtes fort. Non, en revanche, vous n'êtes pas fort au jeu de balle. Hein.
Ah non.
Le nul au handball, le nul au cricket.
Oui. Il y a un petit chapitre sur le fait que mes muscles sont plus endurants que explosifs. Et en fait, c'est un prétexte pour parler des trous noirs et de la cosmologie. Donc, pour vous dire à quel point je fais le grand écart. Mais c'est possible de parler à la fois des trous noirs et de mon échec au handball. Ouais,
et de rendre à la place.
Au cricket, c'était pire d'ailleurs.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas casser le coude.
C'est non, il faut jeter la balle avec le bras tendu. Et les Anglais savent faire, mais moi...
Bon, alors on va passer à ce petit jeu scientifique très sérieux.
Oui.
Je casse de l'eau.
Oui. Pourquoi est-ce qu'on casse de l'eau?
Oui, alors description d'abord d'une molécule d'eau.
Oui, alors donc...
H2O.
J'ai déjà dit ça, mais je vais commencer par là. C'est très irritant, je trouve, au début du XXIe siècle, de s'apercevoir qu'on ne comprend pas très bien la structure de l'eau. On fait des choses d'une sophistication absolument fantastique. Par exemple, pour effectivement comprendre les détails initiaux du Big Bang ou des choses pareilles, ou la mécanique quantique dans tous ces détails, c'est très, très compliqué, très sophistiqué. Et la structure de l'eau, qui est le liquide qu'on a autour de nous, qui est indispensable à la vie, avec lequel on vit sans arrêt, finalement, c'est tellement complexe qu'en 2000 et quelques, on ne comprend toujours pas très bien. Alors, il se trouve que pour comprendre un peu mieux, il s'agit de savoir comment les molécules d'eau s'associent les unes avec les autres. L'eau était ce qu'on appelle un liquide associé. Là, je vais faire un peu de physique parce qu'on est dans une émission scientifique.
Ah oui, il faut passer
dans mon livre,
sérieuse,
j'utilise pas ce langage-là du tout. Je parle à un enfant. C'est l'histoire de Groucho Marx, vous savez.
Bon. Amenez-moi un enfant.
Amenez-moi un enfant de 5 ans. Oui. et donc, les molécules d'eau, c'est H2O, donc il y a deux hydrogènes et un oxygène. Et donc, elles peuvent faire, il y a donc deux liaisons covalentes, mais elles peuvent faire aussi ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes qui permettent d'associer les molécules d'eau ensemble. Simplement, ces sortes de molécules en forme de V, quoi. Il y a plusieurs manières de les attacher ensemble. On peut les attacher en rond ou par derrière. On peut faire des rondes comme les enfants. C'est l'image que je reprends avec un trou au milieu. Et c'est à cause de ça que la glace est légère. C'est merveilleux de s'apercevoir de ça. Ou alors on peut les mettre les unes derrière les autres, très serrées, auquel cas l'eau serait plus dense. Et l'idée qu'il existe non pas uniquement l'eau qu'on connaît, mais une autre eau dont la densité est complètement différente parce que la température ou la pression étant différentes, les molécules vont s'arranger autrement. C'est une idée très récente qui est controversée, qui permettrait peut-être d'expliquer toute une quantité d'anomalies de l'eau sur sa chaleur spécifique, sa viscosité, toute sa thermodynamique, qui sont très bizarres, en particulier dans l'eau en surfusion, c'est-à-dire l'eau un peu métastable en dessous de 0 degré. Par exemple, vous savez, dans les nuages, dont je parle aussi à un autre endroit, parce que j'aime bien les nuages, leur forme, leur couleur, tout ça. Dans les nuages, il y a des gouttelettes d'eau, sauf si c'est plus haut encore et plus froid, c'est des nuages de glace. Et ces gouttelettes d'eau sont à moins 20 degrés, en fait. Elles sont à moins 20 et pourtant, elles ne sont pas gelées, parce qu'il n'y a tellement pas de surface, pas d'impureté pour nucléer, comme on dit, c'est-à-dire faire apparaître le premier germe de glace, que cet état liquide est un peu instable comme un crayon de boue qui hésite à tomber. Vous voyez ? Bon. Et donc, dans cette eau qu'on appelle en surfusion, c'est-à-dire en dessous de 0 degré, mais liquide quand même pour un certain temps, comme dans les nuages, je vois que vous me suivez, du moins j'espère, eh bien, il y a la viscosité, par exemple, de l'eau devient très très grande si c'est très froid. Bon. Et la manière dont cette viscosité diverge devient immense, est très étonnante. Et l'une des explications possibles, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aurait plusieurs eaux possibles. Alors, face à ça, c'est controverse parce qu'il y a d'autres théories de l'eau possibles. Dans notre laboratoire, et c'est mon ancien élève Frédéric Copin qui est vraiment responsable de ce programme, moi j'aide un peu dans un coin et j'ai pris ça pour mon livre parce que c'est plus facile à expliquer que les solides quantiques. Bon. Sous la direction de Frédéric Copin, on casse de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? On tire sur l'eau avec des ultrasons. Les ultrasons, c'est comme toutes les ondes sonores, c'est une succession alternative de compression, de dépression, compression, dépression, etc. Et si l'onde est extrêmement intense, ce que nous savons faire, la dépression est extrêmement violente, ça tire sur l'eau localement à une force gigantesque, et on regarde si on tire suffisamment fort pour séparer les molécules et passer de l'état liquide à l'état gazeux. C'est ce qu'on appelle la cavitation. C'est la même chose que les crevettes de tout à l'heure ou les sous-marins, sauf qu'on fait ça dans l'eau extrêmement pure et que ce qui nous intéresse donc, c'est la force de liaison entre les molécules. Ce n'est pas de savoir ce qui joue pour les crevettes. Est-ce qu'il y a un peu de plancton par là qui a déjà fait une bulle qui simplement grossit, quoi. Bon. Et donc, c'est un test de la structure de l'eau, de casser de l'eau avec des ultrasons, c'est-à-dire de faire des dépressions et de voir si une bulle apparaît. Donc, c'est pour ça, là, j'ai un discours sérieux qu'on fait ses expériences dans l'eau. On est en train d'ailleurs de découvrir quelque chose de tout à fait stupéfiant, à savoir qu'il y aurait deux eaux différentes, non seulement quand elle est très froide, mais aussi quand elle est justement en dépression, ce que nous faisons. Et ça...
Quelle chose étrange.
Bon, oui. Ça, les gens n'ont pas l'air de vraiment l'avoir compris, donc on est en train de dire à nos amis théoriciens, faites plus de calculs, parce qu'il y a quelque chose que vous avez raté, là.
Sébastien Balibin, c'est difficile d'obtenir de l'eau très pure.
Ah oui, c'est très difficile, oui. L'eau dissout énormément, beaucoup de choses. Justement, quand on fait nos expériences, la première objection qui vient quand on trouve un résultat bizarre, c'est de dire, votre eau, elle est sale. Bon, il suffit de pas grand-chose, hein, un petit tuyau d'échappement de la machine à faire de l'eau pure qui serait un petit peu, je sais pas, oxydé si c'est du métal, je dis ça au hasard, c'est pas ça en fait. Bon. Mmh. Où on peut dissoudre un peu de plastique, bon, l'eau dissout même les parois du récipient. Donc on pourrait penser que notre eau n'est pas suffisamment pure. Mais vous pensez bien qu'on a vérifié ça dans tous les détails et qu'on a même pris de l'eau lourde et que ça donne toujours la même chose. Donc on est sûr de nous. On a trouvé une structure bizarre dans l'eau en dépression.
Ouais. Petite définition de l'eau lourde.
Ah, l'eau lourde, oui, pardon. Oui. L'eau lourde, c'est l'eau qu'on obtient en remplaçant les hydrogènes de H2O par du deutérium, qui est l'isotope, le premier isotope lourd de l'hydrogène, qu'on appelle D, et qui sert à différentes sortes de choses, entre autres comme ralentisseur de neutrons dans des centrales nucléaires.
Alors, Sébastien Balibar, vous dites aussi qu'il y a différents types de glace. Alors, vous parlez aussi assez longuement de la glace.
Oui.
Qui a des comportements étranges et qui forment, alors je sais pas, j'en prends au hasard, mais si on glisse sur la glace, c'est parce qu'il y a de l'eau.
Oui, effectivement, oui, j'ai aussi, je me rappelle plus très bien à quel endroit je raconte cette histoire qui aussi m'intéresse, mais je suis loin d'être le premier. Les scientifiques se sont ravagés pendant au moins un siècle pour savoir comment ça se fait qu'on dérape sur la glace. Et une fois de plus... Non, mais vous voyez, on sourit tout autour de cette table, on est content, c'est de la vie courante, ça, et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Encore faut-il avoir envie de se poser la question. Et j'aimerais que les gens, en lisant mon livre, s'aperçoivent que c'est fou ce qu'il y a comme truc intéressant autour d'eux. Alors donc, quand on est sur la glace, on sait bien que ça dérape. Pourquoi ? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont proposé des interprétations variées, toutes plus ou moins... toutes plus ou moins belles d'ailleurs, mais plus ou moins... Enfin, il y en a une seule qui est vraie, qui est que quand vous avez un morceau de glace avec sa surface libre à l'air, quoi, comme en ce moment dehors, il a neigé, bon, en fait, la surface de la glace, c'est pas la glace elle-même, il y a une petite pellicule d'eau liquide. L'eau liquide mouille toute la surface de la glace. Donc, il est impossible de garder, sauf à des températures redoutablement froides, un glaçon, si vous voulez, sans qu'il soit recouvert d'un petit peu d'eau. À la suite de quoi, si vous êtes sur un sol verglacé, eh bien, vous glissez de la même manière que quand vous êtes dans votre salle de bain et qu'il y a de l'eau par terre. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas simple, c'est pourquoi l'eau mouille la surface de la glace. Pourquoi il y a cette pellicule d'eau liquide à la surface du glaçon? Ça, c'est de la très belle physique de surface, mais bon, ça dépasse un peu le cadre de cette émission, peut-être.
En tout cas, on peut poser la question d'ordre général, parce qu'il va y avoir ensuite des catégories de réponses. Pourquoi l'eau mouille?
Ah oui, oui.
Et pourquoi elle mouillerait moins?
Ah oui, oui, bien sûr. Oui,
à un
oui.
moment, vous avez un mot, vous êtes drôle, là, encore une fois.
Moi, j'essaye d'être drôle. Vous me trouvez vraiment drôle.
Si vous lavez la coupe de champagne,
ah oui.
Alors là, vous faites de l'hydrophobie.
Oui, sans le savoir. Je sans le savoir. Ici, j'ai pensé à M. Jourdain. Oui, oui, parce que, vous savez, le langage scientifique est souvent métaphorique, donc... l'eau aime ceci, l'eau n'aime pas cela. Bon. Et donc, il faut se méfier que ces métaphores, mais c'est, bon, en termes scientifiques, une surface qui aime l'eau, ça se dit hydrophile, et puis qui n'aime pas l'eau, c'est hydrophobe. Et donc, c'est très important de savoir si une surface est donc hydrophile ou hydrophobe. Et donc, je ne me rappelle plus si j'ai pris ces deux exemples, mais il y en a deux qui sont hyper classiques. Le premier, c'est le pare-brise de votre voiture. Donc, le pare-brise de votre voiture, on veut qu'il soit hydrophobe afin que l'eau, au lieu de s'étaler partout, fasse des petites gouttes. Et donc, votre essuie-glace, il chasse les gouttes et votre truc est propre et vous y voyez au travers. Alors en général, une surface qui est hydrophile, elle est au contraire, elle n'aime pas l'huile. Et donc vous savez bien que si votre pare-brise de voiture, enfin moi j'ai pas de voiture, j'ai un vélo, mais bon, des lunettes, c'est pareil. si vous mettez une goutte d'huile, elle au contraire, elle s'étale, c'est très sale et vous aurez beau passer votre essuie-glace, ça vous arrivera pas à nettoyer. Et puis donc il y a cet exemple qui est l'histoire du champagne et que j'aime beaucoup parce que d'abord, le champagne, c'est bon. Et puis, quand on regarde les bulles du champagne, on apprend plein de choses. Et donc, effectivement, dans votre verre à champagne, contrairement à la bouteille qui est à côté, qui a exactement le même champagne, hein, alors regardez bien, parce que chaque fois que je dis ça, les gens disent « Ah, c'est pas possible, j'avais pas pensé à ça. » Donc, regardez bien. Dans la bouteille, il n'y a pas de bulles et dans votre verre, il y a des bulles. Pourquoi? Bonne question. C'est plus subtil qu'on croit. Et
certes.
Donc, c'est parce qu'à l'intérieur du verre, c'est moins propre qu'à l'intérieur de la bouteille. Il y a des petits endroits qui sont hydrophobes et qui sont vraisemblablement des petits restes du torchon que vous avez utilisé pour essuyer votre verre, qui sont des petits morceaux de cellulose qui sont hydrophobes, justement. Donc, ils vont piéger une petite bulle d'air au moment où vous remplissez votre verre. Et à partir de cette bulle déjà existante, le gaz carbonique qui est dans le champagne diffuse vers la bulle qui grossit. Quand elle est suffisamment grosse, la force d'Archimède l'emmène vers le haut. Et puis ça recommence. Et c'est comme une horloge. Vous avez des petites bulles qui montent une par une des endroits hydrophobes de votre verre. Et c'est très important, mais là, on ne va pas avoir le temps de raconter tout ça, parce que s'il n'y a pas de bulles dans le champagne, ça sentirait moins bon. Mais ça, je vous laisse découvrir pourquoi le champagne sent bon à cause des bulles.
Bah, dites-le.
Ah, alors bon, allons-y. Et donc, j'ai appris tout ça, d'ailleurs, en grande partie, en allant visiter les laboratoires de Saint-Gobain, qui se préoccupent des qualités du verre, et donc du mouillage, et tout ça, et sans oublier les problèmes de rayures de la bouteille sur la chaîne de remplissage. Bon. Mais donc... dans le champagne, il y a des protéines aromatiques qui sont des molécules qu'on appelle amphiphiles. Elles sont comme les molécules de savon, elles ont une tête et une queue. Et la tête aime l'eau, la queue n'aime pas l'eau. Et donc, ces protéines aromatiques qui, comme leur nom l'indique, sentent bon, véhiculent le parfum, si vous voulez, elles s'attachent à la surface de la bulle parce qu'elles peuvent mettre la tête à l'intérieur de la bulle et la queue en dehors. Et donc, elles tapissent la surface de la bulle, ce qui fait que quand elles montent et que vous avez le nez dans votre coupe de champagne ou votre flûte, je préfère les flûtes pour une raison autre, bon, vous avez des petites bulles qui éclatent en permanence à la surface du champagne et qui, en éclatant, libèrent ces protéines aromatiques qui sentent bon. Et donc, c'est grâce aux bulles, il faut qu'il y ait des bulles pour que le champagne sente bon, que ce soit agréable à boire. Mais avant de boire, en fait, on sent.
Ouais, bien sûr. C'est surtout par le nez.
C'est une belle histoire, non ?
Ah, très belle, très belle. Alors, il y a aussi une question qui était posée par les gens d'Épernay. Il y a un laboratoire aussi qui travaille le champagne, hein,
oui,
assez
oui.
important.
Oui.
On n'ira pas de marque. Mais il y a, semble-t-il, un régime différent de bulles
oui.
lorsque c'est une femme qui boit, lorsque c'est un homme.
Un régime différent, les femmes
oui. Et oui, ça viendrait justement...
Il y a beaucoup de fantasmes, vous savez. Dans
non,
le...
non, ça vient du dépôt sur le haut de la coupe
du
champagne.
Du rouge à lèvres.
Oui.
Ah bon?
Oui.
Moi, j'y crois pas. que je crois que c'est faux. Mais c'est bien d'avoir des fantasmes, c'est magnifique. Mais j'y crois pas. Non.
Bon. Passons. Alors, autre chose. En fait, il y a un leitmotiv tout au long du livre. Évidemment, c'est l'eau.
Oui. Mais il faut dire que c'est le leitmotiv de la vie, tout simplement. Voilà. Il y en a aux quatre coins de notre existence. Oui, enfin,
Et dans notre sang, par exemple.
Ah oui, bien
la
sûr,
chose.
Oui.
Pour véhiculer le sang dans les artérioles, il faut de la flotte.
Oui, il y a 90% d'eau dans le corps humain, si je ne me trompe, et donc dans le sang en particulier. Et donc, je pense que vous faites allusion... Ah oui, à un moment, je parle de la manière dont l'eau circule dans les arbres, mais aussi dans les vaisseaux sanguins. Et donc, c'est pour répondre à une question qui, une fois de plus, a l'air ordinaire et que les gens ne se posent pas, ce qui est que qu'est-ce qui limite la hauteur d'un arbre? Pourquoi il y a des arbres qui ont telle hauteur? En général, bon, ils finissent par... s'arrêter de grandir à une telle hauteur. Bon, on pourrait dire, oh, c'est génétique, c'est écrit dans le code génétique, tout ça. Bon. Non, je ne crois pas, c'est de la physique et j'explique pourquoi. Bon. Et puis, il y a une autre question qui est comment l'eau chargée de globules rouges et d'autres choses, c'est-à-dire le sang, fait pour pénétrer aussi facilement dans les tout petits vaisseaux qui sont, par exemple, à l'intérieur des poumons? Comment se fait-il que l'eau pénètre si bien dans des tout petits capillaires? Alors, ça, c'est assez subtil, hein, bon. Mais une fois de plus, ça a trait à certaines anomalies de l'eau et à sa structure, à la façon dont les molécules d'eau pour s'attacher entre elles ont besoin de place. Et donc, près d'une paroi, les molécules sont moins associées, si j'ai bien compris, qu'au cœur, enfin, loin d'une paroi. Maintenant, dans ce problème de circulation sanguine, il y a des choses beaucoup plus subtiles que j'ai complètement laissées de côté, parce que ça deviendrait trop difficile à expliquer pour un livre qui est quand même, une fois de plus, fait pour se distraire, qui sont la mécanique du globule rouge, qui est une chose molle, qui se déforme. Ça joue un rôle très important aussi dans la circulation du sang. Oui.
Nous voilà arrivés au mi-temps de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Vous cassez l'eau, Sébastien Balibar, mais vous jouez aussi beaucoup de piano et vous avez reconnu immédiatement Liszt.
Oui, j'ai eu un instant d'hésitation, mais on est un peu tendu quand on passe à la radio. Mais il faut dire que j'avais un père pianiste et qui m'a beaucoup marqué. Et il jouait ses jeux d'eau de la Villa d'Est de Liszt, ou en tout cas, il les travaillait avec acharnement quand j'étais tout petit. Et j'écoutais ça, entre autres, il y en a d'autres.
Il avait l'oreille absolue.
Ah oui, il y a un chapitre sur l'oreille absolue, oui. Alors avoir l'oreille absolue, peut-être que les auditeurs ne savent pas, mais ça veut dire reconnaître les notes sans avoir besoin d'un diapason. Donc on vous chante, par exemple, mon père, il entendait le pimpon des pompiers, comme je dis, et il savait que c'était la fa, ou je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs en fait. Bon. Et puis, il y a des gens comme moi, en tout cas, qui sont incapables, sans une référence, sans qu'on vous donne le la, de dire « Oh ben, c'est un fa dièse bon. ». Et donc, c'est fascinant parce que ces gens ont l'air exceptionnels, géniaux. Bon. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est de m'apercevoir, en faisant un petit calcul, que finalement, la différence de fréquence entre un la et un sol, à l'air relativement grande. Bon, surtout si on compare avec la différence de fréquence ou de longueur d'onde, ça revient au même, entre deux couleurs. Et je me suis aperçu que quand on regarde deux couleurs, un rose indien et un rouge brique, je ne sais pas moi, bon,
un cyan. C'est
un hasard, un cyan, bon. Il n'y a pas beaucoup de différence hein, de longueur d'onde ni de fréquence. Bon. Et pourtant, on reconnaît tout de suite. Et donc, ça m'a intrigué. Je pense que l'œil est certainement plus sensible. Hein. Mais il y a une question d'apprentissage. Et je crois que les gens qui ont l'oreille absolue, ils ont appris à écouter et à reconnaître les notes, donc en fait à faire de la musique, très très jeune, vers 3-4 ans. Et en fait, les gens comme moi qui ont commencé la musique au-delà de 6 ans, ils ont très très peu de chance d'avoir l'oreille absolue parce que la plasticité du cerveau, c'est fini quoi. Bon, ça se passe tout avant 6 ans. C'est aussi pour ça qu'il faut apprendre les langues étrangères le plus jeune possible si on veut les parler sans accent. Et donc, vous voyez une fois de plus, la physique d'histoire de longueur d'onde entre les couleurs et les sons, ça permet de rêver à autre chose. C'est...
Vous parlez aussi, et là encore, évidemment, c'est la question de l'eau.
Oui.
De la possibilité, par exemple, de tomber sur des exoplanètes. Vous parlez à un moment des exoplanètes,
oui.
Et la découverte des deux Suisses.
Oui.
Alors, sur Mars.
Ah, c'est-à-dire, c'est l'actualité, ça. Hein. Et je ne sais pas, il doit y avoir des gens, peut-être, qui trouvent que. La recherche de la vie dans d'autres planètes, c'est de la science-fiction, je ne sais pas quoi. Pas du tout, c'est de la science contemporaine. Et c'est extraordinairement intéressant d'essayer de trouver de la vie dans d'autres planètes, ne serait-ce que pour comprendre, si on peut, comment la vie est apparue sur la nôtre, la Terre. Hein. Et donc les gens font des progrès extraordinaires là-dedans, et en particulier deux astronomes suisses tout à fait que j'admire beaucoup, qui s'appellent Michel Mayor et Didier Queloz, je crois,
oui, c'est ça.
J'hésite sur son prénom, qui sont de Genève et qui, dans un petit télescope de Provence, tout petit, mais avec du silence et un bon instrument, ont réussi à trouver la première planète qui ne soit pas autour du Soleil, mais autour d'une autre étoile, en 1995 environ. Bon.
Exoplanète, donc.
Donc, on l'appelle exoplanète parce qu'elle fait partie d'un exosystème, c'est-à-dire d'un système de planètes autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, depuis la découverte de Mayor et Queloz, qui j'aimerais beaucoup que ces gens aient le prix Nobel un jour. C'est l'époque pour faire des propositions. Mais j'ai d'autres candidats. Mais enfin, bon, dont je parle aussi dans mon livre, d'ailleurs. C'est l'histoire de la dynamo. Bon, je reviens à ça. Donc, depuis la découverte de cette première exoplanète, qui d'ailleurs est un phénomène, elle est grosse comme Jupiter et elle tourne autour de son étoile en 4 jours. Vous vous rendez compte, un Jupiter qui tourne autour du Soleil en 4 jours, qu'est-ce que ça doit tourner ? Bon. Et donc, je trouve ça fascinant. Et donc, on en a découvert des centaines. Je pense qu'on en est au moins à 300 aujourd'hui.
Oui. Hazar Kalatbari, qui alterne avec Raphaël Briot à cette même émission, nous tient le feuilleton régulier des exoplanètes.
C'est très important. Alors évidemment, ce qu'on cherche, c'est une planète exo qui ressemble à la Terre, parce que c'est celle-là dont on se dit qu'elles auront peut-être de la vie. Et alors, la question de savoir si ça suffit de trouver une planète qui ait la taille de la Terre, qui soit à la même distance de son Soleil, pour qu'il y ait de la vie dessus, ce qui nécessite bien sûr qu'il y ait de l'eau à la surface, sauf si c'est une vie d'un autre type. Alors là, toute l'imagination est possible. Bon. C'est une excellente question et l'étude de Mars qui est en cours et qui a fait des progrès extraordinaires pendant les quelques dernières années, en particulier grâce aux missions européennes dirigées par mon ami Jean-Pierre Bibring. Donc l'exploration de Mars nous a appris énormément de choses. Mars, en fait, a perdu son eau. Il lui en reste un petit peu qui est souterraine, mais très peu. Bon. Et pourquoi est-ce que Mars a perdu son eau ? Alors, je crois comprendre qu'il y a deux raisons qui se conjuguent, qui sont toutes les deux extraordinaires, je trouve. La première, c'est que Mars n'a pas de lune. La Terre a une lune, et la lune, qui est d'ailleurs le produit d'une collision titanesque par une autre planète de travers, qui a fait que ça a évolué comme ça en une double planète au lieu d'être une seule grosse ou des tas de morceaux.
Encore c'est de la taille de Mars, dit-on.
Oui. C'est-à-dire un peu plus petite que la Terre. Bon. Et donc, la Lune stabilise l'axe de rotation de la Terre. Et si l'axe de rotation de Mars est beaucoup moins stable, et donc parfois, il regarde un peu trop le Soleil, et donc à cet endroit-là, ça s'évapore. Mais il y a une autre raison qui me paraît plus importante, qui est la radioactivité. Alors, contrairement à beaucoup de gens, la radioactivité, pour moi, c'est pas si terrifiant. La preuve, c'est que tout est radioactif autour de nous. Il y a de la radioactivité naturelle. Et donc,
vous l'avez déjà dit à ce micro.
Bon, je ne me répète pas.
Si, vous pouvez.
Mais ça ne m'empêche pas de trouver Tchernobyl terrifiant et bien sûr Nagasaki et Hiroshima.
Non, mais vous vous étiez amusé, Sébastien Balibar, de calculer la radioactivité naturelle s'il y avait 8 personnes dans un ascenseur.
C'est mon combat contre certains écolos qui sont peut-être de bonnes intentions, mais qui malheureusement font peur aux gens avec des chiffres qui ne mettent pas en relation avec d'autres. Quoi.
Pardon de vous avoir détourné.
Non, je vous en prie. Et donc, il se trouve que la radioactivité qui provient sur la Terre du fait qu'il y a de l'uranium dans le sous-sol, quoi. Cette radioactivité, c'est une source de chaleur, comme on sait bien, puisqu'on en fait des centrales nucléaires. Bon. Et donc, y a une source de chaleur à l'intérieur de la Terre, et c'est ça le moteur de la convection, c'est-à-dire du mouvement liquide qui est à l'intérieur du noyau liquide, la partie liquide du noyau terrestre.
Des grandes cellules.
Et c'est ces grandes cellules de convection où il y a du métal en fusion qui tourne, qui créant des déplacements de charge, crée un champ magnétique. Et ça s'auto-entretient tout seul si le système est suffisamment gros. Alors la Terre est suffisamment grosse, d'où l'existence d'un champ magnétique qui protège la Terre du vent solaire, c'est-à-dire d'une quantité de particules chargées que le Soleil nous crache dessus en permanence et qui sont déviées par ce champ magnétique. Alors Mars n'ayant pas la chance d'être assez grosse, aussi grosse que la Terre, son champ magnétique, je crois, s'est arrêté. Et là, le vent solaire a soufflé l'atmosphère. Donc, Mars n'a ni atmosphère, pratiquement pas, un tout petit peu de gaz carbonique, ni eau à la surface. Et donc, la vie a peut-être existé à une époque, qu'on va découvrir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est totalement impossible. La surface de Mars, c'est tout à fait inhabitable.
Sébastien Balibar, qui est ce monsieur Humphrey très insolent, qui partage d'ailleurs votre point de vue. Hein, là encore, c'est très très drôle. Vous avez une sacrée dent contre Bush, mais maintenant ça va. Exit Bush.
Oui, je me suis permis deux égratignures sur George Bush, mais c'est un peu tiré sur une ambulance. Oui, c'est trop tard. Mais tant mieux d'ailleurs.
Alors,
quant
la NASA,
à mon ami Humphrey, c'est peut-être un personnage imaginaire. Qu'est-ce que vous en savez?
Ah oui. Tiré peut-être d'Alice au Pays des Merveilles.
Il y a des personnages réels et des personnages imaginaires.
Bon, alors, en tout cas,
celui-là est réel. Et donc, effectivement, vous savez, la NASA aux États-Unis, qui est l'agence spatiale, comme Bush avait ordonné à la NASA de bien vouloir conquérir Mars, c'est-à-dire envoyer des cosmonautes sur Mars, se heurtait à un problème terrible que m'a raconté ce collègue américain qui a donc été convoqué à un brainstorming pour essayer de résoudre ce problème grave. Le problème grave est le suivant, c'est que le voyage aller-retour sur Mars, et encore à condition de choisir la bonne période où Mars et la Terre sont pas trop loin, ça dure 2 ans. Bon. Et donc 2 ans dans l'espace interplanétaire, ça veut dire 2 ans d'irradiation par ce fameux vent solaire, entre autres. Bon. Et donc, vous savez bien que c'est dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que les pilotes d'Air France n'ont pas le droit de naviguer trop longtemps par semaine, parce qu'ils seraient trop dangereusement irradiés. Et donc, envoyer quelqu'un passer 2 ans de voyage aller et retour, espérons, sur Mars, c'est extrêmement dangereux. Et donc, la NASA a convoqué des grands physiciens pour leur demander de bien vouloir résoudre ce problème. Et donc, lui, ça l'a fait rire, parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de solution. Non. Et donc, comme les gens de la NASA, l'administration Bush leur avait dit de bien vouloir conquérir Mars après l'Irak, et qu'ils ne voulaient pas que ça tourne au désastre pareil, ce ne peut pas être pire, parce que c'est malheureusement, on ne va pas comparer les tragédies. Ils voulaient absolument trouver une solution, donc... Mon ami Humphrey a fini par leur dire « Écoutez, envoyez des cosmonautes morts, comme ça vous ferez des économies de nourriture. »
Voilà l'histoire, oui. Cela dit, on peut poser
l'histoire vraie.
Mais on peut se poser la question aussi de cosmonautes qui sont restés à tourner autour de la Terre pendant une année, par exemple.
Oui, alors effectivement, il y a quand même... D'ailleurs, vous savez, les cosmonautes, la chose essentielle qu'ils ont à faire quand ils sont, par exemple, dans la Station Spatiale Internationale, c'est de surveiller leur propre santé. Donc on a effectivement envoyé des cosmonautes dans la Station Spatiale Internationale pour voir s'ils tenaient le coup, combien de temps ils tenaient le coup. Et donc, il y a quelques cosmonautes qui ont résisté à un an d'irradiation dans la Station Spatiale Internationale et qui, apparemment, sont en bonne santé. Donc, je suis très heureux qu'ils soient du bon côté des statistiques qui font qu'ils n'ont pas eu de problème. Mais je pense que si on envoie 1000 personnes faire la même chose, il va y avoir statistiquement un nombre de gens qui vont attraper des leucémies parmi ces cosmonautes. Je trouve que c'est quand même un danger dont on pourrait faire l'économie, quoi. Et donc, moi, je pense que l'aventure spatiale, c'est très extraordinaire. Puis ça nous rappelle Tintin, Objectif Lune ou je ne sais trop quoi. Mais il y a des choses que des robots font beaucoup mieux, en particulier l'exploration de Mars. Et ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus précis. Et donc, je suis, comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs, opposé au vol habité.
Oui. Je vous propose, Sébastien Balibar, qu'on arrête de casser de l'eau et qu'on fasse autre chose avec de l'eau. Vous en avez dit un petit mot tout à l'heure. Mais le principe de formation des flocons de neige que vous regardiez, que vous observiez quand vous étiez chez votre grand-mère.
Et oui, c'est encore de la physique du quotidien, si on veut, que je trouve très belle, qui n'a pas été... On en fait des illustrations, d'ailleurs, de la forme des flocons de neige. C'est vraiment joli, quoi. Bon, ça a une sorte de symétrie, d'ordre 6. C'est des hexagones avec des branches. Bon. Mais on se demande pourquoi ça a cette forme incroyable. Et puis, d'ailleurs, c'est une grande diversité de formes aussi, les flocons de neige. Alors, je raconte ça un peu comme ça. Puis ça me rappelle quand je regardais la neige quand j'étais petit. Et puis, j'en profite pour dire que dans le plâtre, le ciment, les aciers, tout ça, c'est rempli, en fait... De ce qu'on appelle des cristaux dendritiques, c'est-à-dire qui poussent comme des dendrites. Et les dendrites, c'est ces formes pointues, dont il y en a 6 qui forment un flocon de neige. Bon. Et donc, c'est un problème de physique statistique et de physique de la matière condensée, et de physique des systèmes dynamiques. Enfin, il y a plusieurs boîtes dans lesquelles on peut mettre ce genre de problème, qui a été examiné récemment, c'est très récent, qui fait l'objet à la fois de calculs mathématiques très, très subtils. C'est des problèmes vraiment, vraiment pas simples à résoudre mathématiquement. Mais le principe physique qui fait que les aciers, les plâtres et les flocons de neige poussent de cette manière découpée est assez bien compris. C'est une question de diffusion. Et donc, je raconte en quelques lignes que les flocons de neige croissent comme ça à partir de la vapeur, parce que si on fait geler une goutte d'eau, ça fait un glaçon. C'est ce que font les canons à neige en bas des stations de ski, c'est des petits grêlons. Et donc, on sait bien que skier sur des grêlons, c'est beaucoup moins agréable que dans la poudreuse du Colorado, qui est ultra légère, très, très découpée. Et c'est parce que ça croît à partir de la vapeur, et c'est le mouvement hasardeux des molécules qui cherchent un endroit où s'attacher, qui trouvent plus facilement la pointe que le creux, qui font que c'est instable et que ça croît de cette manière. Oui.
Écoutez, on arrive au terme là, de cet entretien. Je redonne le titre de votre ouvrage, Sébastien Balibar. Je casse de l'eau et autres rêveries scientifiques. Les dessins sont de Jean Kerleroux.
Oui, mon ami Jean Kerleroux, qui est dessinateur au Canard Enchaîné et qui m'a fait un certain nombre de caricatures que j'aime énormément. C'est une espèce de dialogue, ce n'est pas de l'illustration. Et oui. Puis, il a la plume acérée.
En tout cas, c'est édité aux éditions du Pommier.
Oui.
Et c'est un très joli petit livre. Je ne me mouille pas en disant ça. Voilà, encore merci.
Merci à
Sébastien Balibar. Et bien voilà, ouverture de l'espace critique. Bonjour Raphaël Briot.
Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
Bonjour Florian Delorme.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
qui commence ?
Eh bien, moi, Stéphane, par exemple, avec grand plaisir. Peut-être un petit mot pour vous signaler que, pour signaler aux auditeurs que le magazine Science et Vie publie ce mois-ci un bon dossier sur la physique quantique. La physique quantique rend-elle fou ? Alors, c'est vrai que c'est une physique particulièrement déroutante parce qu'absolument pas intuitive, même peut-être contre-intuitive. Et c'est peut-être le premier intérêt, finalement, de cette physique quantique, celui de nous obliger à penser l'impensable, d'aller au-delà des idées reçues, de nous forcer à penser à un monde qui va au-delà de la surface apparente. C'est finalement peut-être l'intérêt principal de cette physique quantique. Les scientifiques s'affairent sans relâche à reproduire des expérimentations pour se familiariser avec les propriétés très étranges des particules quantiques, comme l'intrication, par exemple, Stéphane. L'intrication, vous savez, c'est ce phénomène étonnant qui fait que deux systèmes quantiques peuvent être liés entre eux, peuvent être intriqués, ce qui fait que lorsque vous allez interagir sur un des deux systèmes, eh bien l'autre va réagir. C'est d'ailleurs une expérience mettant en scène particulièrement donc ce type de phénomène qui est rapporté dans l'un des articles du dossier.
Oui. Alors, je vous interromps juste une seconde.
Oui,
Sébastien Balibar est entouré de ceux qui désintriquent. Ou réintrigue. Il est entouré aussi de beaucoup de gens, en particulier même le prix Nobel français, qui a beaucoup de données.
Oui, c'est vrai, c'est une question quantique. Très importante.
Bon, ouais. Il n'est pas devenu fou. Ils sont pas au niveau
de la loi. Non, ils sont...
Ça les rend pas fous.
Oui, ou moins
que
moi.
En tout cas, si vous avez un petit peu de mal à concevoir l'intrication, pas d'inquiétude, parce que beaucoup ont du mal à concevoir l'intrication. Même Nicolas Guisin de l'Université de Genève, qui est interrogé dans cet article à ce sujet et qui jongle, lui, tous les jours avec des particules quantiques à longueur de temps, eh bien, lui aussi a du mal à se représenter l'intrication. Et donc, c'est pour sortir de cette incompréhension générale que des chercheurs essayent de creuser des pistes pour expliquer cette mystérieuse physique quantique, notamment celle selon laquelle il n'y aurait pas un seul univers, mais plusieurs univers, d'où ce nom de multivers pour l'univers multiple. Et puis autre approche, lorsque vous rencontrez une étrangeté quantique, eh bien celle-ci, cette étrangeté n'est peut-être pas aussi étrange lorsque vous placez d'un autre point de vue. Finalement, l'extension de la théorie quantique qui permettrait de rendre compte du point de vue d'un second observateur est peut-être une autre piste intéressante pour expliquer justement ces étranges phénomènes qui apparaissent chez les objets quantiques. Peut-être que le mieux, c'est de se rapporter donc à ce dossier de Science et Vie du mois de février là, qui vient de paraître, qui a été réalisé par Roman Ikonnikov et Cécile Bonneau. La physique quantique rend-elle fou ? Je ne sais pas si elle rend fou, mais en tout cas, elle est passionnante, Stéphane.
Alors, Raphaël Briot.
Eh bien, pour ma part, cher Stéphane, je vais commencer aujourd'hui par une question. Savez-vous déceler le poisson qui vit en vous ?
Non, mais toujours la même insolence, on peut remarquer.
Allez, je vous donne un exemple en guise d'indice. Savez-vous distinguer à travers vos mains les nageoires qu'elles furent autrefois ? Pas facile, n'est-ce pas ?
J'ai pas de membrane entre les doigts, mais d'ailleurs, il n'a pas de réponse non plus, Sébastien Balibar, il ne sait pas.
Eh bien, pourtant si, et c'est d'ailleurs à cette étonnante métamorphose, à rebours de l'évolution, puisqu'elle remonte vers le passé, que nous invite le paléontologue américain Neil Shubin dans son ouvrage publié aux éditions Robert Laffont, « Au commencement était le poisson ». Je préfère pour ma part le titre original, plus explicite, « Your inner fish », soit littéralement « Votre poisson intérieur » ou encore « Ce poisson qui vit en vous ». Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, je ne vous apprends sûrement rien en vous rappelant que des milliards d'années durant, il n'y eut de vie sur Terre que dans l'eau. On revient sur le thème cher de cette émission. Notre belle planète bleue n'était peuplée donc que de poissons barbotant dans les mers et les océans du globe jusqu'au jour où, voilà quelques 365 millions d'années, des créatures ont quitté leur univers aquatique pour conquérir la terre ferme. À première vue, le fossé qui sépare les deux environnements semble à peu près infranchissable. Respirer dans l'eau requiert en effet des organes très très distincts de ceux qui permettent de respirer dans l'air. Et c'est pareil pour le déplacement, pour l'alimentation et également pour l'excrétion. Bref, l'impossible s'est pourtant bel et bien produit. Un corps d'un genre nouveau est apparu et a fait la transition entre ces deux milieux radicalement différents. Neil Shubin est ainsi parti à sa recherche, fouiller le sol de l'île d'Elsemer au nord de l'archipel arctique canadien. Il voulait trouver des preuves de ce grand bouleversement de l'histoire de la vie et il n'est pas revenu bredouille, loin de là, puisqu'il a ramené de ce périple un étonnant fossile présenté au public en 2006 et auquel le paléontologue doit désormais sa notoriété. Pourquoi ? Eh bien, justement parce que ce fossile est un magnifique intermédiaire entre les poissons et leurs descendants terrestres. Comme le poisson, il a des écailles sur le dos et des nageoires rayonnées, mais comme les premiers animaux terrestres, il possède une tête plate avec des yeux sur le dessus et un cou qui rend la tête indépendante des épaules. Au final, on ne sait plus trop à quoi ressemble cet animal primitif, à un poisson, à un crocodile, c'est un savant mélange des deux. Le fossile ayant été découvert en territoire Nunavut, les Inuits de la région furent chargés de lui trouver un nom. Il a donc été baptisé Tiktaalik, ce qui signifierait dans la langue Inuktitu, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mon Dieu, excusez-moi, grand poisson des basses eaux. Et pour mieux nous convaincre que Tiktaalik appartient à notre histoire, au même titre que les hominidés d'Afrique, le paléontologue écrit « L'observation de Lucie nous permet de mieux comprendre notre passé de primates avancés. Celle de Tiktaalik nous parle de notre passé de poisson. » Et c'est bien là tout l'objet du livre, partir de notre passé de poisson pour retracer ensuite toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous-mêmes. Alors voilà, à travers ce livre, Nail Shubin se révèle un excellent pédagogue. Il est d'ailleurs professeur d'anatomie à l'Université de Chicago. Mais il se révèle aussi un formidable conteur, capable de faire de chaque découverte scientifique un récit plein de vie et de suspense. Je vous conseille donc la lecture de « Au commencement était le poisson » aux éditions Robert Laffont.
Juste, Stéphane, à ce propos, il y a une très bonne conférence, ce que je disais avant l'émission à Raphaël, il y a une très bonne conférence de Nail Shubin sur Darwin et l'évolution, surtout sur l'évolution, qui avait été donnée l'année dernière, en 2008, à l'Université de Chicago, et vous pourrez la trouver assez facilement sur Internet en faisant une petite recherche.
Bien, petite critique de ma part aussi, donc l'annonce de la première édition dans l'édition intégrale des œuvres de Darwin, qui maintenant est reprise en français chez Slatkin, donc le volume 31 des œuvres complètes est sorti, il s'intitule donc « La variation des animaux et des plantes à l'état domestique ». Je peux rappeler qu'on va fêter 1859 cette année et aussi la naissance. 1859, c'est
l'origine des espèces.
De l'origine des espèces. Et 1871, là, c'est pas une date anniversaire, mais donc c'est la variation, pardon, des animaux et des plantes à l'état domestique. C'est vraiment la consolidation, on peut dire, illustrative et argumentative du transformisme sur énormément, énormément de détails. C'est un livre, lui aussi, d'un fort volume, 960 pages, mais c'est une pièce essentielle. Donc, pour la compréhension du grand Charles. Voilà.
Très bien.
C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention, merci aussi de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont toujours et toujours et toujours les bienvenues. Jean-Frédéric, Serme Boutatin, Catherine Denet, Brigitte Alléo, Stéphane Deligeorge. Si vous voulez nous écrire ou si vous voulez réécouter cette émission, n'importe où, n'importe quand, reportez-vous bien sûr au site internet franceculture.com, émission Continent Science. Continent Science est aussi, je le dis à chaque fois, balado-diffusé. Vous avez donc la possibilité de nous enregistrer sur votre petite machine pour une écoute d'une plus grande liberté encore. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi sur France Culture.